Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata.
Grosse à nous.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h04, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Bruno Satin avec nous ce soir et on est ravis d'accueillir l'homme qui va... Le héros de tout un pays, exactement.
Le héros d'un pays.
Qui va être le premier donc français à la tête d'une sélection étrangère dans un euro. Voilà, il pourra dire à jamais le premier. C'est Willy Sagnol qui est avec nous, sélectionneur de la Géorgie. Willy, bonsoir.
Et salut messieurs.
Salut Willy.
Salut.
Bon, et on est ravis de te retrouver
sur avec nous, quand même. Hein.
Exactement.
Pardon.
Et oui. Je disais que tu as bossé avec nous pour ceux qui
ah, écoute, ça a été une belle expérience.
Voilà. Ici c'est Willy, grand moment de la radio française il y a quelques années. Je ne sais pas si encore des podcasts dispo qui traînent. On pourrait l'écouter. Bon, bah déjà bravo parce que tu as fait un truc dingue là, parce qu'un petit pays comme la Géorgie, 4 millions d'habitants, hein, voilà, c'est à peu près la taille de l'Uruguay.
Ou la Croatie.
Ou la Croatie. Enfin, qu'il y a une histoire footballistique qui n'est pas celle de l'Uruguay ou de la Croatie, en l'occurrence. Et donc, vous vous êtes qualifié à l'Euro face à la Grèce au tir au but, là. C'était il y a quelques semaines. Et donc, vous en serez. Est-ce que, quand t'es parti là-bas, et quand tu vois où tu es arrivé maintenant, tu te dis quand même que c'était inespéré, ou bien dès que tu es arrivé, que t'as pris tes fonctions, t'avais vu qu'il y avait un potentiel?
Non, ça aurait été un peu présomptueux. Non, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert les joueurs que je connaissais pas forcément.
Pourquoi tu as dit oui à la Géorgie d'ailleurs? Quelle idée t'a traversé la tête de te dire je vais partir en Géorgie?
J'ai été amené à m'expliquer plusieurs fois déjà sur ça. En fait, c'était voilà période un peu post-Covid, on était encore un peu dedans, et j'avais eu envie de faire quelque chose de différent, d'avoir une aventure différente. Tu sais, moi, je fais partie d'une génération où, par exemple, tu vois, il y a certains entraîneurs qui m'ont marqué, même si c'était pas toujours les plus connus en France, mais tu vois, des mecs par exemple comme Bruno Metsu, j'ai toujours eu envie quelque part, tu vois, de je veux pas dire d'avoir sa carrière parce qu'il a eu une carrière énorme et j'en suis très loin en tant qu'entraîneur, mais tu vois, vivre des choses comme ça, parce que quand tu l'écoutais parler, tu disais mais ce mec il respire le bonheur, il est parti dans des endroits qu'on pense pas toujours quand on est en France, tu sais, dans notre championnat ou dans notre Europe de l'Ouest à nous, avec la Champions League, avec tous ces trucs, mais à chaque fois que tu l'entendais parler, tu disais le mec il est heureux.
Et tu veux dire voilà. Qu'il y avait une volonté de dépaysement, de connaître autre chose, pas d'aventure, que d'un point de vue sportif, qu'il y avait un petit côté aventure en plus du foot.
Complètement. Donc, écoute, j'étais en plus, dans un endroit, le Caucase, où j'ai dû y mettre les pieds une fois, je pense, pour jouer contre eux avec l'équipe de France il y a très longtemps. Mais c'est une partie du monde que je connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas?
Et quand t'arrives alors, tu montes un projet où tu te dis avec cette équipe-là, je peux avoir telle et telle ambition, tu te mets à observer tous les joueurs et le réservoir de joueurs possible. À partir de quand se met en place le plan objectif Euro 2024?
En fait, c'est un plan assez tardif parce que quand je suis arrivé, je me suis vite rendu compte que, comme tu dis, le réservoir, il est pas très large. Tu vois, là, par exemple, pour l'Euro, j'essaye de faire une liste de, tu vois, 35, 36 joueurs, au cas où il y ait des blessés, tu vois, de dernière minute. On va dire que la liste, elle est très vite faite. J'ai pas 35 joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale, par exemple.
Il y a quand même quelques stars, on va y revenir.
La première chose, salut Willy, c'est Bruno.
Salut Bruno.
Ouais, non, moi, pour moi, le soir où ils sont qualifiés, enfin, c'était extraordinaire. J'ai envoyé un message à Steph Courbis pour lui dire, écoute, félicite Willy, parce que les gens se rendent pas compte ce que c'est de qualifier la Géorgie pour l'Euro.
Mais enfin, c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, nous, on connaît la valeur des équipes nationales. Alors, c'est vrai que il y avait déjà un truc avant-coureur, même si l'Euro U21 s'était déroulé en Géorgie, en Roumanie, et la Géorgie était en demi-finale. Donc, tu te dis, bon, bah, il y a peut-être quand même des joueurs, et bon, on en avait vu 2-3.
Mais on aura à l'Euro avec toi,
ces joueurs? Là, à se qualifier, ouais, bah, il y en a qui sont relativement jeunes, hein.
Bah quand tu regardes l'équipe qui a été en quart de finale là, du championnat d'Europe espoir, je crois que sur les 21 ou 23, je sais plus, je crois que j'avais 10 ou 11 joueurs qui font partie de mon effectif à moi. Donc ça m'a montré déjà qu'ils pouvaient performer, tu vois, sur un championnat relevé avec la France, avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique, tu vois, même si c'est qu'au niveau espoir, mais ça montrait quand même que voilà, qui pouvait arriver à faire les choses. Mais après, depuis de tout temps, il y a eu des joueurs talentueux en Géorgie, mais souvent ils avaient pêché par le talent avant l'équipe ou le talent avant la discipline. C'était un petit peu ça les problématiques. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles la fédération, je pense, avait fait appel à moi par rapport un peu à mon passé allemand, voilà, donc avec discipline, avec toutes ces choses là
Il y en a eu pas mal qui étaient en Allemagne, il y en a eu pas mal, enfin bon, ouais, nous, ouais. On se souvient, bon, t'as dû en côtoyer quelques-uns, puisque je crois qu'il y en a un qui est team manager de l'équipe nationale maintenant, mais bon, on se souvient des Klinkladze, le Maradona géorgien, on se souvient de Ketsbaya, on se souvient de Kaladze, bien sûr.
Kaladze à Milan, chez Verdazé.
Exactement. Après, c'est pas quand vous regardez l'histoire, c'est pas du tout la génération la plus talentueuse, on va dire des 30 et quelques dernières années ou des 30 années ou depuis que la Géorgie est indépendante, c'est pas la génération la plus talentueuse, mais voilà, on a réussi à créer quelque chose, une forme d'unité, une forme de voilà, on a d'abord travaillé sur le groupe, puis sur l'équipe, avant de travailler sur les individualités. Et voilà, je suis super, super content et super fier de tout le travail que tout le monde a, que ce soit le staff, les joueurs, la fédération, que tout le monde a fait.
Alors, il y a une histoire quand même du foot en Géorgie. Il y a maintenant longtemps, le Dynamo de Tbilissi avait gagné une Coupe d'Europe, du temps de l'URSS. Le football n'est pas né là, il y a quelques années, avec Kaladze et les autres.
Non, mais quand tu regardes l'histoire de ça, tu sais comment ça marchait à l'époque de l'Union soviétique. Ils prenaient les 15-20 meilleurs joueurs de l'Union soviétique, ils les foutaient tous dans un club. Donc t'as eu la période Dynamo de Tbilissi, après t'as vu la période Dynamo de Kiev. Tout dépendait un petit peu du sélectionneur, de quel pays il était, et puis ils foutaient tous les joueurs dans le même club. C'est un peu comme ça que ça marchait à l'époque.
Exactement. Et moi, d'ailleurs, il y a des bouquins passionnants sur le foot soviétique, si ça vous intéresse, notamment Beria, qui était un foot et qui, en gros, truquait les championnats en fonction de l'équipe qu'il voulait voir gagner.
Et ça remonte à assez loin.
Il faut le dire. Et d'ailleurs, il était géorgien, Beria. Ouais. Bref. Oui, Stéphane.
Pour revenir aux raisons qui t'ont amené là-bas, ce qui m'avait frappé lorsque vous avez obtenu cette qualification, c'est ton bonheur, ta joie, telle que tu l'as exprimé. Et par rapport à un parcours de joueur quand même qui a été incroyable, avec un palmarès incroyable, on a l'impression que c'était presque le plus beau moment de ta vie de footballeur.
Bah, c'est difficile de comparer parce que quand t'es joueur, on va dire que t'es un acteur, t'es l'acteur premier parce que t'es sur le terrain. Et par des passes, par des centres, par des tirs, ouais, par des tacles, tu peux influer sur un résultat très rapidement. Quand t'es entraîneur, même si tu travailles dur pour avoir des résultats, parfois t'as l'impression aussi de subir un petit peu les choses. Donc ça peut pas être les mêmes émotions. Et justement, je dirais que c'est encore plus fort parce que comme t'as eu une carrière de joueur avant, tu peux mesurer les choses que tu réalises. Quand t'es joueur, t'es dans ton tunnel, tu fonces, tu fais ta carrière, t'essayes de gagner des matchs, des compétitions. Mais quand tu gagnes quelque chose de gros, t'as souvent ce truc en toi, quand t'es joueur, de te dire, bah, je vais le gagner encore. Ou je vais encore faire la même performance. Donc, en fait, tu mesures pas toujours l'ampleur de ce que tu fais. Quand t'es entraîneur, c'est différent, parce que voilà, t'es plus vieux, t'as plus de bouteilles, t'as plus d'expérience. Mais c'était une joie, qui est difficilement. Même encore aujourd'hui, un mois après, j'ai du mal à la décrire.
Mais comment s'organise ta vie, Willy? Toi, tu vis en Géorgie?
Ah, j'y suis.
Metsu, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il s'installait en général dans les pays qui dirigeait, quoi.
Et Hervé Renard. Bah,
j'y suis. Allez, on va dire, j'y suis 7 mois de l'année. Je suis en Géorgie. Tu vois, je suis plus là-bas
quand même
que,
7 mois.
France, ouais.
7 mois dans l'année,
Oui.
Donc t'es pas un turbo sélectionneur comme il y avait les turbo profs là qui faisaient les allers-retours entre Paris et la province.
Non, mais vraiment,
tu vis au rythme du pays géorgien.
Je pense que c'est une question de respect
fondamental.
Tu peux pas aller au plus profond de ce pays, aller chercher les joueurs, aller chercher l'adhésion du public, aller chercher l'adhésion des clubs. Si toi-même tu passes pas la plupart de ton temps là-bas, c'est pas possible.
Oui, ça c'est sûr.
Tu parles un peu. Toi, tu parles allemand très bien, évidemment. Tu parles un peu géorgien, Willy. T'as appris quelques mots.
Allez, je dois avoir une trentaine de mots, mais avec ces 30 mots, je peux pas faire une phrase. Voilà.
Non, mais par contre, c'est
avoir 30 mots et pas réussir à faire une phrase.
Ce qui est hyper important, c'est que bon, quelque part, et je sais qu'il y avait il y a une quinzaine de jours, il y avait un séminaire de l'UNECATEF qui se posait la question pourquoi on n'a pas plus d'entraîneurs français qui s'exportent ou qui trouvent du boulot ailleurs, que ce soit en club ou en sélection.
L'UNECATEF dirigé par.
Je sais pas, apparemment il y a une cabale. Donc,
jusqu'à présent.
Mais bon, justement. En tout cas, il faudrait se faire putcher. En tout cas, le syndicat dans son ensemble se posait la question et il se trouve qu'ils ont pensé à nous inviter. Donc, il y a un de nos membres qui est allé échanger.
Le syndicat
des agents. Ouais, et donc ils sont partis échanger avec eux. Et donc, mais bon, la meilleure pub, c'est effectivement quand il y a des entraîneurs français qui réussissent. Et bon, ça c'est un exemple extraordinaire parce que ça peut inspirer d'autres sélections qui trouvent pas forcément chez eux un coach adéquat. Et qui se diront peut-être, ah bah tiens, il y a des Français qui réussissent, quoi.
Alors, parlons de l'Euro, Willy, parce que donc, dans le groupe de la Géorgie, je parle dans l'ordre des matchs, il y aura un premier match contre la Turquie, deuxième match contre la République tchèque, troisième match contre le Portugal. Du coup, quel est l'objectif de la Géorgie?
C'est déjà de trouver des matchs amicaux pour se préparer. Parce que quand t'es une petite nation, c'est pas facile. À tel point que même pour l'instant.
Bah franchement, la France joue le Luxembourg. Ça aurait été une bonne idée de jouer la Géorgie. Ça aurait été bon.
Après jouer la France, tu sais.
Tu veux pas forcément jouer des gros.
Écoute, si c'est pour m'en prendre 8 en termes de confiance, il y a mieux, tu vois.
Je comprends.
Parce que on sait, même si on s'est qualifié, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est, et surtout on sait ce qu'on n'est pas. Donc, tu vois, on est vraiment. Quand tu cherches des matchs amicaux, bah pour te préparer, tu veux quand même, parce que tu vas faire des rotations, tu vas essayer de préparer tes joueurs. Physiquement, ils seront pas tous au même niveau.
Oui, tu veux acquérir de la confiance aussi, quoi. En fait.
Exactement. Donc déjà, on a un match qui est prévu contre le Monténégro, qui est une belle équipe pour nous, le 9. Mais par exemple, tu vois le 4 ou le 5, c'est impossible de trouver un match. Donc tu vois, on va se rabattre. Je vais essayer de faire, tu vois, une sélection, par exemple des bons joueurs géorgiens qui jouent dans la ligue géorgienne. Et puis je pense qu'on va faire ça.
Bon, oui, match amical entre vous, quoi, en quelque sorte.
Et comment tu vas,
maillot contre les torse nu.
Ces matchs-là, comment tu vas les aborder, comme le petit qui va jouer que contre des gros et donc ça va être tactiquement, le bloc bas, tu vas attendre. Comment tu vas les aborder, ces matchs-là? Comment tu vas préparer ça? Parce que moi, j'ai pas vu tous les matchs que tu as fait avant. Je sais pas comment joue la Géorgie, en fait. Comment t'as mis tout ça en place?
Écoute, quand t'es une équipe nationale comme ça en Géorgie, où t'as pas, comme je t'ai dit, t'as pas 200 joueurs, donc on va dire tactiquement, c'est presque les choses qui s'imposent à toi, plutôt que ta, entre guillemets, ta philosophie, qui est un grand mot, ta philosophie de jeu, tu vois. C'est pas possible sur une sélection comme ça à mettre en place. Donc, t'essaies de t'adapter aux joueurs que tu as. Moi, j'ai des joueurs parce que c'est un peu la culture géorgienne qui est comme ça, par exemple, c'est que quand ils ont un ballon, ils ont envie d'aller tout de suite vers l'avant. Tu vois, j'ai des joueurs qui peuvent aller vite, qui peuvent être très performants dans la transition. Donc, pour moi, ce qu'on essaye de mettre en place, je dirais, surtout sur les 18 derniers mois, c'est d'avoir un bloc pas forcément bas, mais un bloc très dense, et surtout d'aller très vite une fois la récupération du ballon. Parce que j'ai pas forcément le genre de joueur qui peut faire jouer l'équipe. Tu sais, un milieu de terrain comme un Griezmann, par exemple, qui va t'alterner les temps forts, les temps faibles. Ça, j'ai pas ça.
Alors parlons justement des joueurs, parce qu'il y en a quand même qu'on connaît, hein, évidemment, j'en cite quelques-uns. Là, bon, Miko Tadze, bien sûr, qui va alors peut-être.
Surtout qui nous parle de Miko Tadze, Willy.
Qui va peut-être à lui tout seul maintenir Metz. Il y a évidemment Kvaratskhelia, qu'on connaît bien au niveau européen.
Ça fait quand même deux très bons attaquants.
Il y a le joueur de Bordeaux, David Ashvili. Il y a Kankava, qui est assez âgé maintenant, mais qui est passé par la France. Donc bon, t'as quand même des gars sur lesquels tu peux t'appuyer, quoi. Des gars dans le milieu.
Offensif du Sturm Graz également, qui est international géorgien.
Ouais, qui était Julien. Ouais.
Titulaire, bah, lui, toi.
Ouais. Oui, il est titulaire. Et moi, par exemple, moi, c'est un peu un choix que j'ai fait quand tu regardes mon équipe. Alors, parfois, on m'a reproché de jouer un petit peu bas ou d'être un peu frileux. Mais quand tu regardes notre équipe, on a quatre joueurs défensifs de formation. Et tout le reste, c'est quasiment que des attaquants ou des milieux offensifs. Tu vois, moi, c'est un choix que j'ai voulu faire parce que tu t'adaptes, comme je te dis, aux joueurs que tu as, et j'ai voulu quand même essayer d'avoir un milieu de terrain. Alors j'ai réussi à trouver au fil du temps, avec des joueurs aussi qui se sont révélés un petit peu, tu vois. Je pense à, il y a un joueur que je trouve fantastique, qui joue à Levante en seconde division espagnole, qui s'appelle Kocorashvili, qui a une personnalité incroyable et je l'ai pris parce qu'il a commencé à jouer simplement l'été dernier avec son club alors qu'il a déjà 23 ans, et il m'a changé beaucoup de choses au milieu de terrain, par exemple, où on a maintenant un milieu de terrain capable de récupérer des ballons mais de jouer aussi, ce qui n'était pas forcément le cas au départ.
Puis t'as le gardien de Valence quand même.
Le gardien de Valence, ouais. Non,
t'as pas une gifle dans les bus,
Kvaratskhelia,
hein.
Non, non, Kvaratskhelia devant, Mamardashvili dans les cages. C'est sûr, quand t'as un très bon gardien et un très bon attaquant, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de Miko Tadze, de ce séjour raté à l'Ajax et de ce retour tonitruant à Metz? Quelle est ton analyse par rapport à ça?
Mon analyse, c'est que c'est un joueur qui est talentueux. Je pense que le fait qu'il se révèle un petit peu sur le tard, parce qu'il a déjà 23, il va faire 24, je crois, cette année. Je crois que c'est un joueur qui, à mon avis, quand il était jeune, il n'a pas assez travaillé. Il n'a pas travaillé assez dur. Je crois d'ailleurs qu'il est passé par le centre de formation de Lyon, où ça ne s'est pas bien passé. Mais c'est un joueur qui commence maintenant, voilà, à comprendre que pour y arriver, il faut travailler dur, il faut travailler très dur. Il y a eu l'échec de l'Ajax, mais je pense que c'est un échec qui l'a fait encore plus mûrir. Et je pense que, voilà, il est en train de se relancer. C'est comme je sais pas qui c'est qui l'a dit, j'ai entendu, mais c'est presque à lui tout seul, il va presque réussir à faire maintenir Metz.
Ouais. Et dis-moi, ils ont tous des surnoms, tes joueurs, parce que le nom complet, c'est trop compliqué.
Déjà, sur les 23, je crois que je dois avoir 12 ou 13 mecs qui s'appellent Georgi, c'est leur prénom. Donc, ça, déjà, le prénom, tu l'oublies. Donc oui, mais souvent, leur surnom, c'est leur nom un peu contracté. Ouais, Mamardashvili, c'est Mamar. Kvaratskhelia, c'est Kvara.
Voilà. C'est ce que je dis, les surnoms. Sinon, ça ne sort pas. Kvaratskhelia, c'est Kvara.
Ouais, voilà.
Oui.
On a Johan au 32-16 qui est bordelais, qui veut parler de David Ashvili. Salut Johan.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Très bien.
Appelle-le Davidi, tout simplement.
Oui, déjà, je suis content d'avoir Stéphane Guy parce que j'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois. Bon, il était déçu ce jour-là parce qu'il était passé dans ma pâtisserie dans le 6e arrondissement et j'avais pas de flan ce jour-là.
De flan.
Voilà. Il est parti en disant, c'est quoi cette pâtisserie? C'est pas Valladolid? Donnez-moi le flan, je me souviens
très bien de cette pâtisserie. Mais pourquoi t'es un fan des flans?
Parce que c'est un spécialiste des flans, normalement. Non,
mais toi, est-ce que toi, t'aimes les flans?
Bah, j'aime bien les flans, ouais.
Ah, parce que moi, je connais le meilleur de Paris. La prochaine fois,
c'est
chez Lyon, peut-être.
Ah, moi, c'est. Non, c'est pas celui. Attends, celui de rue de la Convention?
Ouais. Il y en a un qui est rue de la Convention,
qui était venu ici?
Ouais. Je crois.
C'est lui.
Bah, je sais pas, Johan, c'était là que
Alors moi, il est soit dans le 6e,
rue de Seine. Ah, on parle pas du même.
Non, mais Johan,
on a bien rue de la Convention. C'est un Alsacien, d'ailleurs, je crois.
Mais le meilleur, je te le garantis, il est rue Chardon-Lagage dans le 16e.
D'accord.
Il a gagné le premier.
Ça peut être pas mal, ouais. Non, ça peut être pas mal. Mais dans le 18e, c'est meilleur.
Il a quand même gagné le premier prix du flanc de Paris.
À côté de la butte Montmartre.
Bon, excusez-moi, mais faut qu'on reparle.
Je me fie au titre. Il a gagné le titre.
Bon, Johan, je t'invite à venir un soir dans l'after nous faire goûter.
Oui, viens.
Bah, pas de soucis. Hein.
Bien que t'es fou.
Bon, mais tu bosses pas pour un Alsacien, Toder, Johan?
Non, il est breton.
Ah, il est breton. Bon, c'est pas le même.
Ouais. Tu as Willy Sagnol avec toi. Revenons à Bordeaux et à Domitashvili.
Bah, déjà, merci à Willy pour ses deux années à Bordeaux, même si c'était un peu mal fini, mais merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant, les matchs, la Coupe d'Europe. Ma petite question,
c'était
c'est
mieux
très
qu'aujourd'hui,
simple.
Hein, Bordeaux, évidemment.
Oui, ah bah ça, oui, ça c'est sûr. Hein. Ma petite question pour Willy, ça serait sur quoi doit progresser Zouka ? Donc nous on l'appelle Zouka à Bordeaux, parce que bon, avant qu'il, quand il est arrivé chez nous, on voyait que c'était un joueur qui avait quand même de la percussion, bon, qui manquait de finition. Pendant quelques mois cette année, c'était compliqué. Là, depuis qu'il s'est qualifié avec la Géorgie, j'ai l'impression de retrouver un joueur qui est libéré d'un poids et qui progresse en vitesse lumière, quoi.
Donc, ouais, écoute, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai regardé ces derniers matchs et j'étais même au stade d'ailleurs le dernier avec son joli but, le lob qu'il a mis. Je pense qu'il fait partie des joueurs comme j'en ai d'autres en Géorgie. Je pense que cette qualification va leur permettre de se libérer un peu, de plus être, tu vois, considéré comme membre d'un pays qui se qualifie jamais, qui perd toujours, et je pense que ça va en libérer quelques-uns. Et je pense que oui, Zouka s'est libéré un peu de ça. Déjà, quand tu me parlais de sa progression, je trouve déjà qu'il lève un petit peu plus la tête, il a moins la tête dans le guidon. Parce que au début c'était un peu insupportable, même quand je regardais des matchs avec Bordeaux, parfois tu le voyais aller dans un mur, mais il y allait vraiment la tête première. Là il est, voilà, je le trouve plus mature sur ces derniers mois, c'est plus mature, c'est, et donc plus efficace, et si les Girondins voilà, ont quand même sorti un peu la tête de l'eau là surtout sur le dernier match, ça leur permet de voilà, d'éviter d'avoir une fin de saison compliquée. Ils le doivent aussi en grande partie grâce à lui, parce que là, les 4-5 derniers matchs qu'il a fait, c'est plutôt intéressant.
Et comment tu dis tête dans le guidon en géorgien?
Tu dis pas.
Tête dans le guidon, je vais lire. Ouais.
J'ai une question un peu géopolitique là, parce que la Géorgie est un pays assez instable. Il y a encore eu d'ailleurs des grandes manifestations il y a quelques jours. Et la présidente de la République est française. Elle a été diplomate française. Elle parle donc un français forcément parfait.
Paris,
exactement. Mmh. Salomé Zourabichvili. T'as des rapports avec elle, Willy? C'est une compatriote au fond.
Non, pas du tout. Non, pas de son, pas d'image. Je suppose que peut-être le foot l'intéresse pas. Je sais pas.
Attends, t'es en train de me dire que la Géorgie que t'emmènes à l'Euro,
vous n'avez pas été reçu.
T'as pas été reçu par les autorités, les pouvoirs publics. Vous n'avez pas reçu de félicitations.
Alors,
ou quoi,
c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Je crois fin mai ou début juin. D'être, tu vois, décoré. L'équivalent en France, je te dirais peut-être là, ou ça doit être là, peut-être la Légion d'honneur, quelque chose comme ça. Et également le staff étranger, on devrait recevoir en signe de remerciement la citoyenneté géorgienne.
Ah bah oui, ils peuvent pas faire moins. Hein. En Afrique, ça c'est toujours, ils te donnent un passeport local. Hein, ça,
ton staff est français, Willy?
J'ai deux Français avec moi, oui. Mon adjoint et le préparateur physique.
Et est-ce que tu penses te préparer à une carrière désormais un peu de globe-trotteur comme Metsu, Renard, Leroy et d'autres?
Troussier.
Sincèrement, ça me plairait bien parce que les émotions que j'ai pu vivre avec la Géorgie là, ça risque de rester des émotions un peu uniques. Ça va être dur de faire mieux parce que c'est déjà bien ce qu'on a fait. Mais dans mon futur endroit où j'irai, oui, j'aimerais revivre des moments comme ça avec des projets qui se comptent en années, pas simplement en semaines ou en mois comme tu peux avoir dans d'autres endroits.
Là, tu sais ce que tu vas faire après l'Euro? Tu sais déjà si tu vas quitter, si tu vas rester ou pas encore?
Écoute, comme on dit, hein, moi j'ai encore un contrat, donc je suis pas le seul à pouvoir décider de ce qui va se passer. Je trouve le plus important pour l'instant, il est pas là. Le plus important, il est de se présenter du mieux possible à l'Euro, d'avoir une vraie performance là-bas, parce qu'on n'y va pas, en touriste, ou on n'y va pas comme le petit poussé qui veut voir commencer la première fois. Hein, c'est pas comme ça. Hein. Donc non, on va essayer de faire notre maximum là-bas, et puis après, écoute, on verra. Hein, tu sais, le foot, c'est entre les envies que tu as parfois et ce qui se passe, il y a souvent un décalage.
Et donc, et toi, tu rêves pas de Ligue 1, clairement, quoi, de revenir en Ligue 1?
Non.
Voilà.
C'est l'avantage de Willy, c'est qu'il se plante pas. Oui.
Non, mais pourquoi?
C'est juste, tu vois, sur les dernières années, oui, j'aurais eu la possibilité de revenir, mais je trouve que la Ligue 1, c'est, enfin, je sais pas, je trouve que ça devient compliqué. Parce que t'as un grand club qui est loin devant tout le monde actuellement et qu'aujourd'hui c'est un championnat qui est super compliqué. Souvent les ambitions des clubs avec les moyens mis en place, bah, souvent ça colle pas et le premier à payer ça c'est l'entraîneur. Et j'ai pas forcément envie de vivre ça. C'est pas du tout une critique ou quelque chose comme ça, mais j'ai envie de voir autre chose. Voilà, j'étais entraîneur en Ligue 1. J'ai passé 2 ans à Bordeaux. La première année, ça a été une super année. La deuxième année, ça s'est mal fini. J'ai apprécié ce moment-là, mais j'ai envie de vivre autre chose. Et puis, je sais pas, de vivre des moments avec une équipe nationale comme j'ai pu vivre et comme je peux vivre avec la Géorgie, au niveau national, c'est encore un degré supplémentaire en termes d'émotion et d'intensité.
Merci Willy.
Merci Willy.
On suivra l'Euro de près.
Ah bah oui, là maintenant.
Eh bah c'est gentil. Bah vous viendrez voir la finale, je vous aurai des places.
Ah,
c'est gentil, ça. C'est gentil.
Enregistré. Merci Willy, bonne soirée. À très bientôt.
À bientôt, à bientôt les amis.
Et bravo encore.
Dans un instant, Brest au programme, et puis l'Italie et l'Espagne.